Donc les ambitions du campus. La première chose, c'est un campus de rang mondial. Cette infrastructure, une fois développée, sera deux fois plus grande que le deuxième site en Europe. Donc il s'agit vraiment d'une position de leadership mondial. Et leadership mondial, je vais sauter à l'autre extrême de la page, qu'on souhaite faire en alignement avec nos valeurs françaises et européennes. Donc en termes d'environnement, on ne va pas comme... par exemple nos voisins d'outre-Atlantique, utiliser de l'énergie, des turbines à gaz, utiliser des quantités très importantes d'eau. Non, on utilise le mix français d'énergie décarbonée. On n'utilise pas d'eau, ça a été l'objet de nombreuses conversations avec la CCBRC. Et on s'applique même au-delà de l'utilisation de ce mix énergétique français décarboné à travailler avec des acteurs des énergies renouvelables, par exemple Engie et l'un d'entre eux, à comprendre comment on pourrait favoriser le développement de projets renouvelables supplémentaires sur la base des besoins de ce campus. L'emplacement, on va y revenir, mais c'était un emplacement qui était idéal pour le projet. Qui s'inscrit dans un projet de territoire et dont on a la conviction, je pense, en ayant travaillé ensemble, qu'on peut avoir un développement local et des retombées très importantes pour le territoire, pas seulement immédiatement à Fougeux, mais aux alentours. Et enfin, je pense que l'un des aspects ambitieux et parfois compliqués du projet, c'est le calendrier qu'on s'est fixé, avec un souhait de montrer qu'on peut... en dépit des critiques qu'on se fait parfois à nous-mêmes en France de la lenteur des développements, de certaines procédures administratives, voilà, prouver à nous-mêmes et au monde qu'on peut aller plus vite. Mais aller plus vite, ça ne veut pas dire aller trop vite, et c'est pour cette raison qu'on a souhaité faire cette concertation préalable, justement pour recueillir des interrogations, des suggestions, pouvoir les intégrer quand on avance dans le projet. Oui, donc je suis passé rapidement sur les atouts du territoire à la page précédente parce qu'on les détaille un peu ici. Bon, la première et la plus évidente, c'est que le site est situé immédiatement sous les lignes 400 000 volts, qui sont l'armature du réseau électrique français, qui transporte des quantités très importantes d'énergie entre les différentes régions, connecte notamment les centrales nucléaires. Et il s'agit d'une ligne sur laquelle il y a des capacités disponibles très importantes, et donc on n'a pas de risque finalement de priver d'autres utilisateurs de ces capacités électriques. Le deuxième, c'est la position de ce site sur un grand nombre de réseaux de fibres qu'on peut aller accrocher avec des investissements relativement raisonnables, ce qui nous permet d'aller servir non seulement la France, la région parisienne, mais qui aussi nous permettent très rapidement d'aller servir des besoins ailleurs en Europe. On a notamment un des paramètres qu'on regardait, c'était ce qu'on appelle les latences, donc le temps pour que les données atteignent d'autres villes en Europe. Et notamment, on regardait Francfort, Londres, Dublin, Amsterdam. Et le site de Fougeux était dans ceux qu'on a observé, 55 sites au départ, qui avaient les meilleurs temps de latence. Donc c'était un paramètre technique important pour nous. La planification territoriale, on en a parlé. En fait, ce qui a permis l'implantation de ce projet ici, en fait, je comprends que ça remonte à 20-25 ans en arrière, quand les 31 communes de la CCBRC ont décidé de mutualiser leur pastille de développement économique afin de pouvoir avoir un projet qui se fasse à l'échelle. Et donc, cette décision... Ne m'en voulez pas si je dis les mauvais chiffres, mais je crois que c'est 20 ans ou 25 ans. Voilà, donc quelqu'un a eu la préscience de dire à l'époque, plutôt que d'avoir un hectare par-ci, un hectare par-là, mettons tout ça en commun et un jour viendra un projet dont on jugera qu'il est le bon pour notre communauté de communes. Et c'est cette planification territoriale qui permet aujourd'hui de faire un projet de cette ampleur dans de si bonnes conditions. Bon, la question des transports, on est évidemment à proximité d'axes de connexion, et les savoirs locaux, ça a été l'objet de nos 2 ou 3 heures de réunion au déjeuner, et on reviendra sur certains des enseignements qu'on a eus dans cette rencontre avec les acteurs économiques régionaux.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement le projet... Oui, donc bonjour à tous, Jordan Alguenouni, Link City, assistant maître d'ouvrage de Campus AI. Et donc, je vais vous présenter rapidement les principales caractéristiques du projet. Donc, pour commencer, vous avez ici en rouge le périmètre du projet. Donc, on se situe sur la commune de Fougeux, à proximité immédiate de la limite communale entre Fougeux et Crisnoy. C'est les pointillés que vous voyez qui traversent la page, qui est la limite communale entre Fougeux et Crisnoy. Donc, au nord, on est délimité par la route départementale 57. À l'ouest, on a le futur centre pénitentiaire de Crisnoy. Et au sud, on a l'autoroute A5 dont parlait Thibault. Et on a le centre d'enfouissement de Veolia. Aussi, donc les trois traits que vous voyez en trait continu, là, c'est les lignes très haute tension dont on parlait tout à l'heure, qui permettent de desservir directement en électricité le campus. Et donc, selon ces délimitations, on a un campus qui fait environ 70 hectares et qui se situe à cheval sur le périmètre de l'ancienne ZAC de logistique et d'entrepôt. Et donc, on vient en lieu et place de cet ancien projet de logistique et d'entrepôt. Sur cette page, vous avez les principales infrastructures et bâtiments du projet qui sont répertoriés. Donc, bien sûr, vous avez une dizaine de data centers qui viennent créer la capacité de stockage et de calcul du campus. Vous avez deux postes électriques, un poste électrique de RTE qui se raccorde sur les trois lignes très haute tension dont on parlait tout à l'heure, et un poste privé du campus. Il est également prévu un bâtiment de formation qui sera aussi un lieu d'accueil et de vie. Et on aura aussi toute une série d'infrastructures, des voiries pour la circulation au sein du campus, des bassins pour stocker les eaux de pluie et lutter contre les risques d'inondation, et aussi une station d'épuration, puisqu'il est prévu que le campus soit autonome pour le traitement de ses eaux usées. Et donc on aura directement sur le campus une station de traitement des eaux usées. Donc ces différentes infrastructures, elles sont positionnées sur ce plan d'ensemble. Donc les rectangles gris et hachurés bleus, c'est les différents centres de données. Donc ceux qui sont hachurés violets, où il y a le numéro 3 dessus, c'est les centres de données qui sont envisagés pour la première phase. Les autres centres de données sont en rectangle gris. Et les deux rectangles bleu-turquoise sont les deux postes électriques. Le gros rectangle turquoise, c'est le poste RTE qui se raccorde sur les lignes très haute tension. Et le deuxième rectangle turquoise, c'est le poste privé du campus. Donc l'accès au campus est envisagé depuis la route départementale 57. Donc là où vous voyez le giratoire, donc l'accès principal se fait directement sur ce giratoire qui vient d'être réalisé. Et donc dès l'entrée dans le campus, là où il y a le numéro 1, on aura le bâtiment d'enseignement qui sera justement le lieu d'accueil et de vie du campus. Ce qu'on aura aussi dès l'entrée du campus, c'est le parc central où vous avez le numéro 5. Donc ce parc central, ce sera un espace riche en espace vert. Et c'est là aussi on aura toute une série de bassins des eaux pluviales pour stocker les eaux de pluie et lutter contre le risque d'inondation. Pour information, aujourd'hui sur le campus, il est envisagé de gérer les eaux de pluie de niveau centennal. Donc on est vraiment sur un très haut niveau de stockage des eaux de pluie pour contenir un maximum les eaux de pluie et pour éviter les risques d'inondation pour les villages et villes qui sont en aval. Donc l'un des enjeux forts du projet, c'est de réussir son insertion paysagère dans le paysage. On est quand même dans de grands espaces agricoles et donc on souhaite à tout prix réussir l'insertion du projet dans ce paysage. Donc la principale solution travaillée par les architectes et paysagistes, c'est de planter massivement le plus possible. Et donc tout autour du campus, on envisage de développer un masque paysager qui va aider à habiller le projet et à l'insérer dans son paysage. L'autre enjeu fort du projet, c'est de réussir à avoir un effet positif sur la biodiversité. Donc on a fait différentes études, on a fait des inventaires faune-flore qui ont montré qu'on avait une avifaune, des oiseaux assez remarquables sur la haie que vous voyez à côté du numéro 10 et dans les champs. Et donc, vis-à-vis de cette biodiversité, pour avoir un effet le plus positif, on envisage de créer des espaces tampons entre ces zones de biodiversité et notre campus. Et donc, vous voyez, là où il y a le numéro 10, on a une zone tampon qui sera dédiée à la biodiversité et aux oiseaux. On a aussi ce numéro 10 en haut à droite qui sera une autre réserve pour la vie faune. Et puis, sur toute la façade est du projet, vous voyez la grande trame verte qui est un corridor écologique composé de plusieurs haies qui viendra développer un corridor sur l'axe nord-sud vis-à-vis des champs. Donc voilà, avec ces aménagements-là, on espère avoir un effet positif sur la biodiversité et notamment la vie faune assez riche sur le site. Sur cette page, vous avez des perspectives d'architectes du projet. Donc ce qui est assez flagrant, c'est qu'on a une volonté de planter un maximum. Vous voyez que les aménagements sont riches en espaces verts et qu'on souhaite à la fois avoir un projet riche en espaces verts autour du campus pour avoir ce masque paysager qui aide à l'insertion du campus dans le paysage agricole, mais aussi à l'intérieur du site où on envisage aussi de planter fortement.
Bonsoir à tous, donc je suis Théophile Doublier, je travaille pour RTE, le réseau de transport d'électricité, et je vais dire quelques mots sur le raccordement électrique du projet, qui est quand même une partie importante de la construction de ce data center. Avant ça, j'aimerais rapidement parler de RTE, donc vous n'êtes pas forcément familier de notre entreprise, vous connaissez sûrement Enedis qui distribue l'énergie. Et ben en fait, on est les grands frères d'Enedis, on la transporte sur les grandes et très grandes distances. Donc Enedis vient distribuer localement aux petites entreprises et aux consommateurs. Nous, on vient transporter sur de grandes distances et alimenter les gros sites de consommation. Donc pour nous, raccorder Campusia, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Rien qu'en Ile-de-France, on a une soixantaine de sites de consommation de forte puissance. Donc ça peut être la RATP, la SNCF, des usines de traitement des déchets ou autres. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire. On fait des études pour savoir comment le faire, pour bien le faire, pour ne pas mettre en péril la sécurité d'alimentation des autres utilisateurs. Donc c'est quelque chose d'habituel. On a également des postes électriques. Le poste qu'on va construire ici, ça sera un des pratiquement 200 postes électriques qu'on a en Ile-de-France. Donc c'est un réseau qui est quand même assez important. Sur le projet en lui-même, donc comme l'a dit Thibault, une des grosses forces de ce projet-là, c'est qu'il se place en dessous des lignes électriques 400 000 volts, et surtout il ne se place pas en dessous de n'importe lesquelles, il se place en dessous de lignes qui ont une capacité disponible très très importante. Donc les lignes électriques qu'on voit ici, là, ce sont deux lignes 400 000 volts qui transportent l'électricité sur de très longues distances. Et pour l'amener sur le campus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un poste électrique, le numéro 7 ici, et on va venir dévier les lignes pour faire ce qu'on appelle une entrée en coupure. C'est juste qu'on va venir créer une sorte de multiprise sur laquelle on va pouvoir brancher le poste de transformation de Campusia qui permettra lui-même d'alimenter tous les data centers. Le but, c'est d'avoir un premier raccordement à l'été 2027 pour 700 MW, une puissance de 700 MW. Et dans une deuxième étape, comme l'a rappelé Thibault Desfossés, les data centers se développent par étapes. Et donc dans une prochaine étape, on montera jusqu'à 1400 MW pour arriver à la pleine capacité. Une dernière partie de ce projet-là, c'est la mise en souterrain partielle d'une île électrique. Donc ici, vous avez les deux lignes 400 000 volts. Et si vous connaissez bien Fuju, vous remarquerez qu'en fait, il y a une troisième ligne qui ici n'est pas représentée, qui est ligne 225 000 volts, qui est aérienne. Et en fait, pour pouvoir faire le raccordement via les deux lignes de droite, il faut qu'on vienne mettre en souterrain cette ligne-là, qui n'est pas représentée, et on vient la mettre en souterrain en contournant le campus. Voilà. En quelques mots, je vous ai expliqué le principe du raccordement. Je pense qu'on pourra en discuter si vous avez des questions par la suite.
On a eu un certain nombre de questions sur le coût et le financement. Donc je l'ai évoqué, l'investissement total à terme, c'est un investissement de l'ordre de 50 milliards d'euros, avec à peu près 8 milliards d'euros en première tranche, donc cette capacité mise à disposition en fin 2027-2028. Je pense que le point important, c'est de réaliser qu'un investissement de cette envergure, à la fois au plan purement financier et au plan technologique, ne peut être fait par un acteur unique. Donc, un des rôles de Campusia comme structure, c'est d'être un peu, pour utiliser les terminologies d'EDF, c'est d'être l'architecte ensemblier qui va chercher les différents acteurs de la construction, de l'aménagement, de la technologie, du bâtiment, des puces, de la connectivité, pour réaliser ce projet et co-investir à leur côté. D'où l'idée d'avoir initialement ces quatre investisseurs, BPI, MGX, Mistral et Nvidia, mais ce sont quatre actionnaires qui sont entourés d'un ensemble d'experts et d'autres acteurs qui vont venir participer. Je donne deux autres exemples. Bouygues en est un dans la construction qui nous a accompagnés depuis le début. Cipartec est une entreprise française spécialisée dans la fibre pour les usages pour l'intelligence artificielle, et on travaille également main dans la main avec eux. Ils sont d'ailleurs aussi une société de portefeuille de la BPI.
Tu veux, Jordan ? Oui, bien sûr. Donc, cette frise synthétise notre calendrier prévisionnel. Pour faire simple, on envisage trois étapes clés. Donc, l'étape actuelle, c'est celle de la concertation à laquelle on participe tous aujourd'hui, qui doit se finir d'ici la fin d'année. Dans cette phase de concertation, on a principalement deux types de concertation. On a la concertation du PLU à laquelle on participe tous ce soir, mais il y a aussi une deuxième concertation qui est en cours, celle du PLU, puisque pour mettre à bien le projet, il est nécessaire de modifier le PLU de Fuju, et donc il y a également une concertation qui est en cours et qui doit se terminer le 4 décembre. Et donc à laquelle vous pouvez participer via notamment un recueil en mairie de Fuju. Donc cette première phase, elle ne consiste pas qu'à concerter. On a aussi toute une série d'études qui est en cours, qui va être nécessaire pour déposer nos dossiers d'ici la fin d'année. Donc il faut savoir, pour réaliser un projet comme celui-là, on doit réaliser différentes études très riches. Il y a notamment les études faune-flore dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui nous ont aidé à adapter notre projet vis-à-vis de la biodiversité, mais il y a aussi des études de trafic, des études acoustiques, des études sur la qualité de l'air, des études sur l'impact visuel du projet. Et donc sachez qu'actuellement, on ne fait pas que concerter, on travaille aussi sur toute une série d'études et sur tous les sujets que je vous ai évoqués pour que d'ici la fin d'année, on puisse déposer nos dossiers, nos demandes d'autorisation environnementale et nos permis de construire, fort de ces différentes études de site et fort de différentes concertations qui sont en cours de réalisation. Donc ça, c'est notre première phase. Et c'est seulement à l'issue de cette première phase qu'on déposera nos demandes d'autorisation environnementale et nos permis de construire. La deuxième phase, c'est la phase d'instruction de nos dossiers, donc la phase d'instruction administrative qui va se développer au cours du premier semestre 2026. Ce qu'on peut aussi souligner au cours de cette deuxième phase, c'est que en avril-mars, on aura une enquête publique où, comme l'indiquaient les garants, au cours de cette enquête publique, on aura des commissaires enquêteurs qui, cette fois-ci, émettront un avis sur le projet sur la base de l'enquête publique avec les différents participants de l'enquête. Et donc cette enquête publique sera une autre occasion de présenter le projet. Et donc la troisième étape, c'est la phase de travaux qu'on envisage de démarrer mi-2026 lorsqu'on aura nos permis de construire et nos autorisations environnementales.
Merci beaucoup. Sur le fond, la question de monsieur, si vous pouvez préciser, c'est-à-dire vous pensez à un fonds qui serait ouvert au grand public pour investir dans le domaine? Alors non, à ce jour, on n'a pas de projet de fonds d'investissement grand public sur l'intelligence artificielle. On vient d'en lancer un, comme vous l'avez peut-être vu dans les médias, sur la défense à la demande de l'État. Et donc chacun peut investir dans ce fonds qui va être géré par BPI. C'est pas le cas pour l'instant sur l'intelligence artificielle. C'est pas dans les projets immédiats en tout cas, mais c'est une idée intéressante.
Au sujet de la répartition de l'actionnariat, il y a une part importante d'actionnariat étranger. Nous, on pense que c'est une force du projet, c'est une force à la fois du point de vue du savoir-faire technologique que ça apporte au projet, mais aussi de l'écosystème de clients potentiels, de l'écosystème de partenaires que ça apporte. Monsieur le maire de Fougeux, c'est qu'on était par exemple sur site à de nombreuses reprises les dernières semaines avec des clients potentiels auxquels sans doute on n'aurait pas eu accès si on n'avait pas eu certains des partenaires qu'on a, parce qu'on connaît très bien les Français, on leur parle toutes les semaines, mais on connaît moins certains des acteurs étrangers. Donc on y tire une première force. La deuxième force, c'est qu'avoir ce capital étranger dans une construction telle que celle de Campusia, où on a BPI comme actionnaire significatif avec des droits bloquants, des capacités à déterminer les orientations stratégiques du projet, c'est un moyen de mettre à notre service et au service de notre politique industrielle et technologique des fonds étrangers. Ils y trouvent leur avantage, mais nous, on peut contrôler l'orientation de ces fonds, une partie de l'allocation des capacités, encore une fois, pour que ce soit en adéquation avec nos objectifs.
Pardonnez-moi, je vous relance, mais la question de madame, c'était est-ce qu'on peut connaître la répartition de l'actionnariat ? La réponse peut-être que c'est confidentiel, mais en tout cas, c'était la question précise de madame.
Non, c'était bien la question. Oui, c'était bien la question. Je ne crois pas que ce sont des chiffres qu'on communique. Ce que je peux dire sous le contrôle de Thierry, c'est que le niveau de participation de la BPI dans ce projet est très supérieur à ce que vous faites normalement lorsque vous êtes minoritaire dans des entreprises.
Oui, donc pour préciser, enfin, peut-être c'est important de dire que c'est MGX qui est majoritaire. Nous, on est actionnaire minoritaire. On dispose au capital de cette société d'un certain nombre de droits qui sont sans rapport d'ailleurs avec ce niveau d'étension capitalistique qui représente plutôt le poids économique qu'on a dans le projet. Il y a un certain nombre de décisions qui ne peuvent pas être prises sans l'accord de BPI qui sera présenté au conseil d'administration de la société. Et je confirme effectivement ce que disait Thibault à l'instant. Ça nous a paru être un facteur clé de succès du projet, d'avoir un acteur qui ne soit pas franco-français, mais d'avoir un acteur qui dispose d'un réseau international. Et donc peut-être que Thibault n'a pas trop envie de faire la publicité d'MGX, mais nous, on a pu constater depuis qu'on travaille avec eux, qu'ils sont en contact avec l'intégralité des acteurs asiatiques, européens, américains, moyen-orientaux, qui interviennent dans ce domaine. Et donc, on pense que ça va apporter d'abord de la notoriété au campus, mais également des relations, des clients, et que donc ça contribuera grandement à sa réussite.
Merci. Il restait deux questions sur la vocation du bâtiment et peut-être les data centers ou projets de data centers de taille comparable.
Oui, absolument. Alors, projet de data center de taille comparable, il n'y en a pas aujourd'hui, mais il y en a deux en construction. L'un en Norvège, qui a été annoncé dans le cadre du plan de déploiement de capacité d'OpenAI, donc qui s'appelle Stargate Norway, donc en Norvège. Et le deuxième, il y a un projet au Portugal qui s'appelle, je crois, Star Campus, qui a aussi une ambition importante. Notre estimation, c'est qu'il y a sans doute de très bonnes raisons d'aller au Portugal, mais compte tenu de l'importance d'être proche des foyers de consommation européens de cette donnée, de cette puissance de calcul, et compte tenu du mix énergétique français, on a pensé que la France était un meilleur endroit pour établir ce projet. Sur le bâtiment d'éducation, et je pense que ça va faire le lien avec ce que disait Thierry à l'instant, l'un des aspects d'avoir la BPI au capital de cette structure, c'est qu'il y a des obligations de redistribution en matière d'éducation, recherche, de formation et de reformation professionnelle. Donc concrètement, l'accord entre les actionnaires prévoit cette redistribution, et la question qu'on se pose en ce moment, c'est la nature des partenariats qui vont être établis, que ce soit au niveau national, régional et local, première dimension, et que ce soit en termes d'éducation et recherche ou de formation et reformation. On est en phase de recherche de partenaires. Donc on a un premier partenaire qui a été annoncé publiquement, qui est le financement de bourses de thèse pour l'école polytechnique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais on avait aujourd'hui dans cette même salle une rencontre avec les acteurs économiques du territoire, justement pour rencontrer. Et l'un des objets de la conversation, c'était l'identification des bons partenaires dans la formation et la reformation professionnelle, notamment pour certaines populations éloignées de l'emploi, avec lesquelles on pourrait travailler pour mettre ces fonds à disposition de ces entités. Pour vous donner un peu non pas des chiffres cette fois, mais des dates, on s'est fixé de présenter au conseil d'administration de la structure un plan d'utilisation des fonds dans le domaine pour l'utilisation dans l'éducation, recherche, formation à la fin du premier trimestre de l'an prochain. Et donc, l'objet des discussions au déjeuner, c'était de se dire, parlons-nous en janvier-février, comprenons qui a des besoins de financement et qui peut nous aider à mettre en place ces partenariats. Et ça fait le lien avec le sujet du bâtiment d'éducation. Le bâtiment d'éducation, c'est une partie de cette ambition plus large de contribuer à la fois d'un côté à la recherche de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle, deuxièmement à la promotion des formations dans le domaine du data center et de la puissance de calcul, donc que ce soit des techniciens spécialisés, que ce soit des ingénieurs dans ce domaine-là. Et enfin, cette troisième catégorie, de comprendre quels sont les emplois qui vont être parfois impactés de façon négative par l'intelligence artificielle, que ça existe aussi, et comprendre quels programmes existent et à quels programmes on peut se greffer pour apporter une pierre à l'édifice dans ce domaine. Le bâtiment de formation, qui est situé à l'entrée du campus, a vocation à recevoir certains de ces programmes, d'autres non. Je vous donne un exemple. Lors des discussions avec l'école polytechnique, ils ont salué la volonté d'avoir ce bâtiment d'éducation, mais ils nous ont dit qu'ils avaient déjà les infrastructures physiques pour faire leur programme. À l'inverse, on avait des conversations au déjeuner avec plusieurs entités qui nous disaient « on manque de salles de classe, nous, certes, ça nous intéresse de discuter avec vous de programmes d'éducation, mais si en plus vous avez 2-3 salles de classe qu'on peut utiliser quelques semaines par-ci, quelques semaines par-là pour des étudiants, ça a une grande valeur pour nous. » Voilà, donc on est en train de travailler à ce que va être l'utilisation effective de ce bâtiment.
Merci beaucoup.
Oui, je pense que c'est un point important. Souvent, quand on voit le plan masse, on peut se dire, mais ce bâtiment, il est tout petit, là, à l'entrée, il fait 1 500 m². Donc, ça, c'est quand même, oui, ça dit l'ampleur du projet, mais donc c'est un bâtiment qui est assez significatif. D'ailleurs, si vous vous souvenez des photos. Attendez. Laissez-moi faire. Voilà. Il est à gauche. Enfin, vous voyez, c'est pas non plus minuscule. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser ou observations, suggestions à ce stade avant qu'on passe aux premiers enseignements de cette concertation? Une fois, deux fois, trois fois. Ok, on va passer à la séquence suivante. Pour la séquence suivante, et c'est un peu le principe des réunions de synthèse de concertation préalable, l'idée c'est de commencer par passer la parole aux participants et notamment à ceux qui ont rédigé des cahiers d'acteurs. Ces cahiers d'acteurs, vous le savez peut-être, sont en ligne sur le site internet de la concertation. À ce jour et dans l'ordre, il y a 4 cahiers d'acteurs qui ont été déposés et mis en ligne. Le premier cahier d'acteurs, c'est celui de la Fibre Info. Donc je vais demander s'il y a un représentant de la Fibre Info qui est présent ici et qui voudrait porter oralement ce qu'il a dit dans son cahier d'acteurs. Je n'en vois pas. Le deuxième cahier d'acteurs qui a été déposé, c'est celui de la mairie de Crisnois. Le troisième, celui de la communauté de communes Brie-Rivière et Château. Et le quatrième, celui de la commune de Fouju. Donc, dans l'ordre où ces cahiers d'acteurs ont été déposés, je vais appeler Monsieur Hervé Janin, maire de Crisnois, pour qu'il nous rappelle rapidement le contenu de son cahier d'acteurs, c'est-à-dire la position de la commune sur le projet et sur la concertation.
Bonjour à tous. Alors avant de vous parler de cahier d'acteurs, et je vous rassure, je ne vais pas ne faire que le lire, je voudrais vous parler du contexte de la commune de Crisnois. C'est important de le connaître pour connaître notre opinion à la suite. La commune de Crisnois a été contrainte de lutter contre de la logistique massive depuis 2008. Je vais faire très court et très schématique. On a eu, malgré cela, un projet alternatif annoncé comme beaucoup plus vertueux, qui a été travaillé pendant 2 ans, de 2019 à 2020, entre l'intercommunalité, le syndicat des énergies et la commune de Crisnois. Tout se passait très bien jusqu'au jour où le centre pénitentiaire est arrivé et est venu sur le développement dit économique de la commune de Crisnois. Et c'est quelque chose qui a donc empêché la poursuite de ce projet alternatif. C'est important de le savoir parce qu'on entend beaucoup de choses sur la commune de Crisnois. L'étape suivante pour la commune, ça a été le schéma directeur de l'Île-de-France qui a été modifié et qui a permis, avec un certain nombre de collaborations, l'intercommunalité qui voulait garder les recettes, et c'est très bien, c'est M. Poteau qui était à la manœuvre, les pastilles dites de développement économique ont été toutes déplacées de la commune de Crisnois à la commune de Fougeux. Peu de temps après, arrive le projet de campus IA qui vient supprimer ce projet de logistique massive sous nos fenêtres et également sur la déviation. Alors, inutile de vous préciser que pour la commune de Crisnois, il est facile de dire que c'est bien préférable pour nous d'avoir un projet de campus IA que de la logistique. Sauf que depuis des années, on a l'habitude d'étudier un peu les dossiers d'enquête. Et évidemment, on ne va pas rester aveugle face à ce projet. Donc merci infiniment d'avoir organisé cette concertation qui n'était pas obligatoire. Ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair et déjà à titre d'information pour l'ensemble de la population de Crisnois, mais également de tous les villages alentours, ça nous permet d'avoir un certain nombre d'informations qu'on aurait sans doute eues un peu plus tard. Donc, a priori, plus favorable, bien sûr, que la logistique. Par contre, sur le cahier d'acteurs, on a 5 points de vigilance. Et je vais revenir seulement sur le premier, celui qui est prioritaire pour nous. Ce sont les risques d'inondation. Alors, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé depuis la réunion d'ouverture. Je vais revenir là-dessus. Il faut savoir que quand le centre pénitentiaire a été annoncé, on a repéré qu'on aurait des risques d'inondation. On a un contexte très défavorable aujourd'hui puisqu'on a depuis quelques années des inondations fortes des terres agricoles sur la commune. On est sur un plateau et ça concerne non seulement la commune de Crisnois, mais également la commune de Mincy, de Saint-Germain-l'Axis, de Blandy et le château de Vaux-le-Vicomte également, très inquiet des suites qui vont avoir lieu au niveau des flux d'eau de pluviale. Alors, ce point d'alerte, il s'appuie sur des constats qu'on a pu faire pendant quelques années, sur de fortes inondations, et sur les premières études qu'on a pu voir, qui étaient des études mixtes à l'époque, entre centre pénitentiaire et ZAC des Bordes. C'est ce qui circule aujourd'hui dans le permis de construire du centre pénitentiaire sur lequel je ne peux pas trop m'étendre puisqu'il n'a pas encore été signé et il n'est pas complet à ce jour. Mais moi, ce que je voudrais faire comme demande forte, c'est que si la pige doit s'entendre avec le campus IA pour la récupération de la chaleur, et ça c'est très bien, il faudrait aussi le faire pour tout ce qui est risque d'inondation. Parce que quand on regarde les chiffres annoncés pour le projet de centre pénitentiaire et qu'on ne fait que comparer avec d'autres projets en France, ça nous paraît extrêmement léger. Là, vous annoncez les chiffres, mais évidemment, on en est à la concertation, on n'a pas encore vu les études, et donc je fonde l'espoir qu'il y ait une vraie collaboration entre les deux chefs de projet pour éviter des risques d'inondation. Alors, dans les deux cas de figure, je reviens sur la logistique, on perd évidemment en souveraineté alimentaire à moyen et long terme, mais on doit y gagner en souveraineté numérique. Donc voilà, c'est un point positif. Maintenant, voilà, je ne vais pas revenir sur toutes les inquiétudes qu'on peut avoir. La principale, c'est le risque d'inondation et je voulais ce soir zoomer dessus.
Merci.
Merci.
Merci, monsieur le maire. Merci. Je vais appeler maintenant monsieur Christian Poteau pour la présentation formelle de la position de la CCBRC sur le projet et un retour sur la concertation.
Merci. Alors, de cette concertation, moi, je retiendrai essentiellement trois éléments pour notre territoire. Et le premier, c'est la préservation de la ressource en eau. On a souvent entendu que les data centers étaient gros consommateurs d'eau. Donc, je ne vous cache pas que c'est un sujet que nous avons très rapidement évoqué avec Thibault Desfossés. Je dois préciser que vous nous avez rapidement rassurés. Mais il faut savoir que la communauté de communes Bride-des-Rivières et Châteaux est une des rares et premières dans les premières communautés de communes à avoir fait le choix de prendre la compétence eau et assainissement dès 2017. Donc nous sommes beaucoup investis dans ce domaine, notamment dans le cadre de la préservation. Et pour les habitants du territoire, vous devez vous apercevoir que régulièrement, il y a des panneaux qui sont d'information dans les rues et on a engagé beaucoup de travaux dans ce domaine-là. Alors bien évidemment, après 10 ans de travaux et d'efforts réalisés dans le cadre, je dirais, de la distribution d'eau et de la préservation de la ressource, il était évident pour nous que ce travail-là soit respecté, qu'on soit cohérent avec les orientations qui ont pu être faites par la communauté de communes, notamment dans le cadre de l'élaboration du plan climat et du projet de territoire. Donc je dirais que c'est un des sujets qui a été tout de suite évoqué avec Thibaut Desfossés. Et écoutez, je profite de l'occasion quand même pour vous remercier de nous avoir entendus et de nous avoir rassurés sur le sujet, puisqu'on entendait beaucoup de choses, et que ce projet ne sera pas consommateur d'eau et qu'il n'y aura pas du coup de prélèvement dans la nappe de Champigny. Dans le même registre, on souhaitait aussi veiller également à l'insertion paysagère du projet afin de limiter l'impact et de préserver notamment le cadre de vie des riverains et l'aspect du territoire en lien, je dirais, avec Jonathan Wokenmeyer, maire de Fouju. Nous avons aussi échangé longuement sur ces sujets et c'est aussi un des éléments qui a été pris en compte. Je pense que tu en l'évoqueras tout à l'heure, Jonathan. Un autre point qui concerne le sujet de la mobilité. La question des mobilités et des transports en commun sur un territoire comme la CCBRC, un territoire rural, aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu dépourvu. Donc l'idée était aussi en lien notamment au travers plutôt de la compétence transport qui est portée par la communauté de communes. Nous avons organisé une première réunion avec Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité compétente en charge de transport en Île-de-France, avec Campusia. Également avec le ministère de la Justice par l'intermédiaire de la PIGE, la région et le département, afin de travailler sur les sujets de mobilité. Donc ça, c'est aussi, je dirais, un sujet très important pour nous, qui doit aussi correspondre aux engagements et aux travaux que nous avions engagés dans le cadre du projet de territoire et aussi du plan climat. Et enfin, le dernier point, c'est les sujets liés aux retombées socio-économiques d'un tel projet, de façon à les rediriger vers les acteurs locaux dans le cadre de l'ensemble, je dirais, des réalisations et des travaux qui seront faits, de façon à ce que les acteurs économiques de notre territoire puissent bénéficier, je dirais, de travaux, de marchés, et que l'économie locale puisse profiter au maximum de ces opportunités. Enfin, toujours dans ce cadre-là, la communauté de communes, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, a aussi pour objectif, à terme, de pouvoir, je dirais, travailler sur la définition de l'intérêt communautaire des compétences exercées, afin de pouvoir, je dirais, relever le niveau des prestations exercées dans le cadre de ces compétences pour pouvoir apporter plus de services à l'ensemble de la population du territoire de Bride-et-Rivières et Châteaux, et que ce soit, je dirais, bénéfique pour l'ensemble du territoire, améliorer les services et la vie de l'ensemble des habitants du territoire de Bride-et-Rivières et Châteaux, sans bien évidemment avoir besoin, et c'est l'objectif, d'augmenter la pression fiscale sur les ménages. Donc aujourd'hui, moi je tiens quand même à réaffirmer que la CCBRC est heureuse d'accueillir le projet de Campusia sur le territoire à Fougeux. Je voudrais aussi rappeler, ça a été dit tout à l'heure par Thibaut Desfossés, mais qu'il y a bientôt 30 ans, certains élus ont fait le choix éclairé de regrouper l'intégralité des surfaces dédiées au développement économique sur chacune des communes afin de pouvoir disposer de surfaces à un endroit stratégique comme il vous l'a été présenté tout à l'heure et d'apporter, je dirais, un service à l'ensemble de la population du territoire. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Jonathan Voschenmeyer, maire de Fougeux.
Merci beaucoup. Bah écoutez, oui, il était important aussi pour Fougeux de contribuer à ce cahier d'acteurs, de produire en tout cas un cahier d'acteurs positif. Hein. Si on est là ce soir, c'est que la commune de Fougeux s'est positionnée favorablement à ce projet. Mais bien évidemment, dit gros projet, dit aussi beaucoup de questions, beaucoup de... forcément de doutes et plein de choses. Bien évidemment que nous, on est à ce soutien de ce projet demain, mais sous condition d'apporter des réponses précises sur la gouvernance d'un tel projet. On est ravis qu'on puisse nous participer en tant que commune, en tout cas à l'élaboration de tout ce que vous ont présenté aujourd'hui le porteur de projet. Mais il est primordial d'être associé à cela. C'est ce qui est le cas aujourd'hui, mais on y verra à y être jusqu'au bout. Et voilà. Et après, forcément, tout ce qui est la sobriété énergétique, tous les sujets qui ont été abordés par mes collègues maire de Crisnois et puis Monsieur Poteau. Voilà, aujourd'hui, nous, on sera forcément partie prenante sur cela et on sera vigilant à ce que tout soit respecté, les engagements qui ont été pris aujourd'hui et puis dans le fil du temps, parce qu'il y a eu beaucoup de questions et d'interrogations de la part des administrés et puis des élus locaux, que ce soit encore ce midi. On sera en tout cas très vigilant à ce que tout soit bien mis en œuvre sur ce gros projet qui est pour nous important, forcément, dimension nationale, voire même européenne. Donc on est ravis aussi d'avoir un tel projet sur notre territoire. Voilà. Merci encore à vous tous.
Merci, monsieur le maire. Je vais me tourner vers la salle pour savoir si ces prises de parole des porteurs de cahiers d'acteurs appellent aussi des réactions ou s'il y a d'autres personnes, parties prenantes, acteurs du territoire qui veulent rappeler leur point de vue sur le projet ou donner leur avis sur le déroulement de cette concertation. Je vais juste faire un petit tour d'horizon pour savoir, après on va passer au point de vue du maître d'ouvrage lui-même sur cette concertation, combien de personnes souhaitent s'exprimer, juste pour qu'on arrive à calibrer le timing. Donc je vois monsieur, donc une seule prise de position et monsieur. Voilà. Donc il y aura deux prises de position, puis ensuite on passera à la parole au porteur de projet. Monsieur au dernier rang, allez-y, on vous passe un micro. Merci de vous présenter, s'il vous plaît.
Je m'exprime au nom de la Fédération France Nature Environnement Île-de-France et de la Fédération départementale FNE Île-de-Seine-et-Marne. Nous avons participé à toute cette opération de concertation format CNDP depuis le début. Je voudrais dire d'abord au départ que les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette concertation nous semblent ne pas avoir été tout à fait idéales. Elles ont eu lieu, pour une bonne part, à cheval sur les congés de la Toussaint, dans un temps rapproché. Et pour terminer sur ces remarques, nous sommes très très étonnés, par exemple, de ne pas avoir été informés de l'atelier qui a eu lieu ce midi, Nous avons eu l'information en début de matinée, simplement. Donc vraiment, c'est très étrange. Cette réunion, cet atelier sur l'emploi et la formation auquel nous aurions souhaité participer, je pense qu'il n'était pas dans le programme qui avait été présenté au départ. Il a été rajouté ensuite, je pense. Et il aurait été tout à fait bienvenu que toutes les parties prenantes qui étaient présentes dès le début de cette concertation en soient averties. Voilà, donc on nous a dit que vous avez bien discuté en déjeunant ce midi, très bien, mais on aimerait bien connaître le résultat de ces cogitations un peu plus en détail, et ça nous aurait intéressé d'en être. Voilà, donc ça c'est pour les conditions de la concertation, mais bon, l'affaire est loin d'être finie, puisque il y a la concertation continue, ensuite il y aura l'enquête publique, donc nous aurons l'occasion encore de participer à ces différentes phases. France Nature Environnement Île-de-France, qui est la fédération régionale FNE, que je ne présente peut-être pas, hein, mais c'est une fédération nationale qui rassemble des centaines et des centaines d'associations. Par exemple, en Île-de-France, FNE Île-de-France rassemble 400 associations sur le territoire de l'Île-de-France. En Seine-et-Marne, nous rassemblons une grosse quarantaine d'associations et nous comptons 2600 adhérents sur le département. Donc FNE Île-de-France et FNE Seine-et-Marne ont l'intention de déposer un cahier d'acteurs donc dans les jours prochains, que vous n'avez pas encore reçu, mais que vous allez bientôt recevoir. Et la tonalité du contenu de ces cahiers d'acteurs est effectivement très réservée, sinon très critique. En ce qui concerne les positions exprimées par FNE Île-de-France, que nous partageons totalement, ils porteront sur les aspects généraux du projet et de son contexte économique, technique, etc., national, international, les risques, des sujets qui sont pour nous problématiques, notamment par exemple l'approvisionnement en électricité. C'est un des problèmes, c'est une des pierres d'achoppement pour nous. Il est vrai que c'est un projet, un super projet qui est ultra énergivore. Je pense que personne ne peut le contester. Et il est bien évident que c'est tout à fait logique, de ce point de vue-là, que ce projet se situe au droit de la ligne à haute tension. Ça paraît tout à fait évident. Sauf que derrière cette évidence, effectivement, il y a le problème de l'approvisionnement en électricité. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet trop longtemps, mais pour nous, ça semble problématique pour plusieurs raisons. Conflit d'usage, qualité de l'approvisionnement. Vous avez parlé de la centrale nucléaire de Nogent, sera certainement un des maillons importants de l'approvisionnement. Cette centrale nucléaire doit subir un carénage les années prochaines, très, très prochainement. On peut se poser la question effectivement de la stabilité et de la qualité de l'approvisionnement en électricité. Encore dans le même domaine de l'électricité, les conflits d'usage, c'est un problème important qui à notre avis, n'a pas été suffisamment exploré. L'autre aspect, c'est sur le rendement du site qui a fait le choix d'un refroidissement par air, qui consomme beaucoup d'électricité pour son propre fonctionnement en termes d'infrastructure. C'est-à-dire qu'en fait, pour 100 unités, il y en a 40 qui vont être consommées pour faire fonctionner le site dans ses infrastructures, et 60 qui seront disponibles pour les usages numériques. C'est-à-dire qu'en fait, le rendement d'un tel site n'est pas aussi performant, par exemple, qu'un site qui choisirait le refroidissement par eau, qui est censé être moins énergivore. Donc, la surconsommation électrique de ce type de site nous pose problème. Bien entendu, aussi, on peut avoir aussi un regard élargi sur la place de ce type de méga data center et le développement accéléré des data centers de grande dimension dans le contexte de consommation numérique qui nous semble problématique par rapport à l'objectif de sobriété numérique et qui est aussi un impératif majeur dans notre société en général en ce moment.
Merci.
Toutes ces questions-là sont loin d'être résolues et je ne pense pas que cette énorme infrastructure apporte une réponse satisfaisante sur ce point-là. Donc, c'est surtout sur des aspects économiques, industriels, techniques que portera donc la contribution des FNE Île-de-France. Maintenant, si on resserre la focale sur le département et sur le secteur de Fougeux, Crisnoy, etc., il nous semble qu'il y a deux problèmes qui ne sont pas résolus, qui ont été évoqués par les intervenants précédents. Le premier, c'est la question de l'accessibilité du site. Le choix de cet emplacement est justifié essentiellement par la présence de la ligne à haute tension. Mais à notre avis, c'est à peu près la seule case positive qu'il peut cocher, parce que autrement, la situation de ce site est totalement, comment dire, excentrée par rapport au service public qui pourrait permettre d'alimenter les mobilités et les usages de ce site. Je veux dire par là que, par exemple, à l'heure actuelle, pour aller de Fougeux à la gare de Melun, il faut emprunter un bus qui compte 38 minutes, hein, d'après ce qu'on nous dit sur Internet. J'ai pas fait le test personnellement, mais on va dire 38 minutes quand il n'y a pas trop de travaux, de détournements, etc.
Pardonnez-moi, est-ce que je peux vous demander d'aller plus
vite? Oui, mais je veux bien aller plus vite, mais vous avez, les porteurs de projet ont eu toute l'occasion de présenter.
Tout à fait, mais les porteurs de quai d'acteurs, je me permets juste de le préciser, ont chacun respecté à peu près 5 minutes dans leur prise de parole, vous êtes à 10. C'est pour ça que je me demande, voilà, si vous pouvez aller rapidement vers les derniers points de votre intervention. Merci.
J'ai bien compris. Donc ça, pour nous, c'est un problème majeur qui ne concerne pas d'ailleurs simplement le problème de data center, mais aussi la prison de Crisenoy et les autres zones d'activité qui sont le long de l'autoroute A5. On a vraiment l'impression que les aménageurs et les collectivités territoriales Melun-Val-de-Seine et Brie des Rivières et Châteaux ont finalement privilégié le tout voiture. Parce qu'il est évident qu'il n'y a pas, en l'absence d'un réseau ferré, tout va passer par les voitures ou par les réseaux de bus qui sont loin d'être à la hauteur et qui prendront beaucoup de temps pour permettre à tout ce secteur et pas simplement le data center d'être à la hauteur. Donc pour nous, il y a un véritable problème. Et quand on par exemple, on envisage de faire venir des étudiants ou des chercheurs sur le campus, il faudra prévoir leur déplacement et ce ne sera pas une mince affaire. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est l'impact local de ce type d'équipement sur l'environnement immédiat et notamment sur la chaleur produite, la chaleur fatale, comme on dit, produite par l'équipement. D'après nos informations, la chaleur fatale produite par le projet serait l'équivalent des besoins de 200 000 logements. Alors on nous dit, mais cette chaleur fatale va être utilisée en partie pour chauffer la prison. En hiver, ça ira, mais en été, ce sera une autre affaire. Pour alimenter des serres, etc. etc. Donc des usages qui sont bienvenus, mais qui, à notre avis, ne sont pas à la hauteur l'énorme quantité de chaleur produite. Et ce n'est pas non plus la dérivation vers Melun pour le chauffage urbain qui sera opératoire, puisque sur 15 km de longueur de tuyau pour aller jusqu'à Melun, la chaleur fatale sera réduite de façon importante. Donc ce n'est pas une bonne solution non plus.
Merci.
Donc il y a un véritable problème de chaleur fatale et qui va retomber, bien sûr, sur les environs immédiats, c'est-à-dire sur la prison, sur les habitants de Fougeux, des hameaux avoisinants, et créer un microclimat avec une augmentation de chaleur qui risque d'être importante.
Merci beaucoup.
Donc
merci.
Voilà les deux.
On a bien noté, accessibilité, chaleur fatale.
Merci.
Merci.
merci de m'avoir laissé arriver jusqu'au bout de mon explication.
Merci bien. On va passer la parole à monsieur le sénateur au premier rang pour une intervention, si possible, plus courte sur sa position sur le projet, sur la concertation. Et ensuite, je passerai la parole au porteur de projet.
Je vous rassure, je serai plus court. Pour vous dire tout simplement que, pour ma part, je suis ravi d'un tel projet sur notre territoire. Ravi tout d'abord pour la commune de Fougeux, pour l'interconnectivité Brie-Rivière et Château, parce que dans un contexte de restrictions budgétaires pour les intercommunalités et pour les collectivités territoriales, eh bien évidemment, ça va leur apporter une manne très importante pour leurs investissements présents et futurs. Et ça, c'est pas négligeable. Ça va pouvoir changer concrètement la vie des habitants de ces territoires-là. Ça va aussi avoir un impact plus large sur le territoire et même sur toute la région francilienne. Et puis, je suis ravi en tant que sénateur, en tant que Français, tout simplement, parce que je préfère que cet investissement colossal, ça a été rappelé, de 50 milliards d'euros, eh bien, se passe dans mon pays, plutôt qu'ailleurs, tout simplement, parce que si pour une raison ou une autre, cela avait été refusé, on peut évidemment imaginer que cet investissement aurait été fait de toute façon, mais pas dans notre pays. Et moi, je ne veux pas que dans le cadre de la quatrième révolution industrielle que constitue d'ores et déjà l'intelligence artificielle, je ne veux pas que mon pays soit ou demeure une colonie numérique des États-Unis ou de la Chine. Je veux que mon pays soit toujours en première ligne, en phase de leader, comme notre pays l'a été à mains égards tout au long des siècles. Je veux que la France continue à peser aujourd'hui et demain, et ça passe par ce genre d'investissement dont on peut être fier. Bien sûr, il peut y avoir quelques désagréments, mais je crois que les avantages sont bien supérieurs aux quelques inconvénients qu'il y aura peut-être, et encore. Donc je crois qu'on peut être fier, évidemment, d'avoir un tel investissement et qui aura des conséquences positives sur tout le territoire. Donc bravo au président, je crois que vous êtes à l'origine de ce développement, entre autres avec tous les acteurs du territoire. Et tout à fait. Qu'on peut remercier et saluer bien bas. Voilà.
Merci bien, merci. On va passer maintenant à une première synthèse qui est évidemment non définitive des porteurs de projets sur ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils retiennent d'ores et déjà, en tout cas, de cette séquence de concertation préalable, sans que ce soit exhaustif et sans que ça prenne forcément en compte aussi ce qui vient d'être dit ce soir, même si il y a des prises de parole riches et intéressantes qui viennent d'être exprimées.
Bon, merci Monsieur le Président de la CCBRC, merci Monsieur le Maire, Monsieur le Sénateur et Monsieur de France Nature Environnement. Peut-être on va essayer de passer en revue certains des enseignements qu'on a fait dans cette concertation. Et ensuite, si vous le permettez, on reviendra à certaines de vos questions si on n'y a pas répondu. Et c'est certain qu'on n'aura pas répondu à tout. Bon, sur tout d'abord les enseignements qu'on a reçus sur les raisons d'être du projet. Vous allez voir, à chaque fois, on suit un peu le même schéma. On essaie de dire ce qui a été accueilli favorablement et là où il demeure des interrogations ou là où même, pour le dire carrément, il y a des vraies objections et où il faut revoir notre copie. Donc sur les raisons d'être du projet, il y avait un message d'ensemble de fierté qu'on a entendu d'accueillir un projet de grande taille et qui a l'ambition de se faire en lien avec nos valeurs, que ce soit dans le domaine environnemental, que ce soit dans le domaine social, de l'insertion. Dans l'ensemble, plutôt une reconnaissance du fait que c'est un site adapté et qu'il y a eu un vrai travail de tri sur la base des 55 sites qui ont été visités initialement. On a parlé du développement progressif et de l'opportunité que ça représente, bien fait, pour le territoire. Mais des interrogations importantes à la fois sur le sujet de la souveraineté, et on est les premiers à reconnaître que c'est un sujet complexe auquel il s'agit d'apporter une partie des solutions sans avoir la prétention de pouvoir être l'unique solution. Et il y a aussi eu des discussions importantes sur l'adaptabilité des bâtiments, le nombre d'années au bout duquel certains des équipements devront être mis à jour. Vous allez voir, je vais passer un peu rapidement, mais c'est parce que je veux vous donner la parole. Je ne suis pas sûr que ça vous intéresse trop d'avoir mon rendu de la concertation, on préfère avoir la vôtre. Donc sur l'insertion environnementale du projet, à nouveau l'emplacement, Certains ont salué les efforts d'évitement. On en avait parlé, je pense, lors de la réunion d'ouverture. En faisant l'étude 4 saisons du site, on s'est rendu compte qu'un oiseau rare, le bruit employé, si vous ne le connaissez pas, allez le voir sur votre moteur de recherche de prédilection. On ne devinerait pas que c'est toi un... français de préférence. Mais on ne dirait pas que c'est un oiseau rare. Mais voilà, il a fallu faire des aménagements très importants. On a pris 10 hectares de terrain sur l'emprise du projet pour s'adapter aux recommandations des autorités environnementales. Et malgré tout, il y a des regrets sur la consommation de terres cultivées, des points d'attention importants sur l'impact paysager qui nous ont conduits notamment à étudier la mise en place de barrières paysagères plus importantes du côté de Crisenois. Je signale d'ailleurs que ça n'était pas reflété dans le plan masse qu'on a montré il y a quelques pages. La gestion des eaux pluviales, où on a fait le choix de s'adapter non pas à la pluie trentennale, comme c'est sous ton contrôle la réglementation, mais de s'adapter à la pluie centennale. Donc on va très au-delà des recommandations déjà relativement strictes des normes françaises et européennes. Un point d'attention sur les nuisances potentielles en termes de bruit et de luminosité. C'est un sujet sur lequel les réglementations sont strictes et en fait, compte tenu de la proximité de la prison, en fait, on est tenu à des niveaux sonores qui sont dictés par la personne la plus proche. Et la personne la plus proche du site, ce sont les prisonniers. Donc, comme on a pu se le dire lors de la première réunion, non seulement on va bien faire les choses pour les prisonniers, mais autant vous dire qu'à Fougeux, on n'entendra rien. Compensation agricole ambitieuse attendue, et monsieur le secrétaire général, qui n'est plus présent, mais qui était présent jusqu'à il y a une minute, ah oui, si, il a dû sortir, sera témoin du fait qu'on était la semaine dernière en préfecture, justement, pour parler des sujets de compensation agricole, étudier certains des dossiers qui ont été remontés et qu'on va aller défendre en CDPNAF en janvier. À noter d'ailleurs que ça n'est pas une liste exhaustive. Si d'autres projets souhaitent se manifester, il est temps de le faire. Sur les synergies industrielles et sur l'énergie, alors là, je regarde notamment monsieur de France Nature Environnement, le sujet de la chaleur fatale, qui, oui, est un sujet important. On est d'accord, la prison plus des serres agricoles, ça ne suffit pas à réutiliser toute cette chaleur fatale. La vraie piste de réutilisation à l'échelle de la chaleur fatale, ce serait d'aller chercher le réseau de chaleur de Melun, qui n'est pas à 15 km, mais qui est à 8 km. C'est l'extrémité du réseau de chaleur de Melun. Ce sont des travaux qu'on est en train de, on est en train de réaliser les études pour comprendre la faisabilité technique de ces travaux. Et on est en contact avec l'ADEME sur ces sujets. J'en profite pour adresser pour parler du sujet de bulles de chaleur. Alors là, en revanche, c'est fake news. Il n'y a pas de bulle de chaleur de plus d'un degré lorsqu'on est à 100 mètres du site. Et ça, ce sont des modélisations scientifiques qu'on est ravis de mettre à votre disposition et qui font des modélisations précises selon le nombre de bâtiments, leur emplacement, leurs paramètres techniques, le système de refroidissement et qui montrent le gradient de température en fonction de la distance au site. Et quand vous êtes à 100 mètres, il n'y a plus de différentiel de température. Pardon ? Et ce sera dans notre étude d'impact, merci de le rappeler. Donc, un problème de chaleur fatale, oui. Un problème de bulle de chaleur qui impacterait qui que ce soit autour, microclimat, non, dans les termes les plus clairs. Piste supplémentaire de synergie à explorer, c'est un sujet important. On est notamment en train de réfléchir au sujet des analyses de cycle de vie des composants électroniques. La vigilance sur la consommation énergétique, on pourra y revenir, et les questions sur la capacité et la robustesse du réseau électrique local, pour laquelle on s'est d'une part reposé sur les estimations d'RTE en la matière, mais qu'on est venu également questionner et qui nous ont conduit à confirmer que c'était non seulement une ligne sur laquelle il y a de la capacité disponible, mais qu'on pouvait, dans un cadre de recherche de sobriété énergétique, contribuer à faire une meilleure utilisation de la ressource qui est ponctionnée. Sur les retombées économiques et l'emploi, et je signale au passage, hein, je vous remercie du commentaire sur le manque de communication sur la réunion du déjeuner. C'est une modalité de concertation qui a été rajoutée, je pense on peut le dire, assez tardivement, à la demande des acteurs du territoire. Je pense qu'on a essayé de communiquer assez largement dessus, mais on regrette que vous n'ayez pas pu y participer. Vous voyez ici un résumé qui a été fait cet après-midi de certains des éléments de conversation qu'on a eu. On peut avoir une discussion plus longue à ce sujet. Donc, quand même pour dire ce dont on a parlé, les attentes importantes, c'était en termes d'engagement chiffré, notamment pour la phase construction et avoir une part importante d'emplois de sous-traitants locaux et régionaux dans cette phase de construction. Et également ensuite, s'assurer que les contributions de la part éducation, recherche, formation du projet aillent certes faciliter, certes promouvoir la recherche de pointe en IA, on le souhaite de l'autre côté aider à rapprocher des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi au milieu contribuer au développement de la filière, par exemple avec la formation de techniciens data center. Je regarde la région Île-de-France avec laquelle on est en discussion à ce sujet, pour que localement, on forme des gens aux métiers qui seront pratiqués dans le data center. Sur la contribution à un projet de territoire, je pense que Monsieur le Président de la CCBRC en a parlé. Les discussions sont en cours avec les mobilités, Région Mobilité Île-de-France. J'ai mal dit l'acronyme.
Île-de-France
Mobilité. Île-de-France Mobilité. Bon, voilà. Mais je pense que le point important, c'est pas l'acronyme, c'est qu'on était encore en conversation avec eux ce matin, justement pour leur expliquer que compte tenu des besoins liés à la prison, des besoins liés au projet, il y a une nécessité à envisager la création de nouvelles lignes. Et je pense qu'on peut le dire, on a eu par écrit le fait qu'ils sont en train de se pencher sur le sujet et comprennent qu'il y a une nécessité. Je pense plus largement, j'en profite pour faire un commentaire sur la prison. On a bien conscience que lorsqu'un projet de cette nature a lieu, il ne faut pas tomber dans l'écueil de mesurer ses impacts isolés. Et donc que ce soit pour le trafic, pour les transports, pour le bruit, on observe tous les impacts cumulés, non seulement avec la prison. Il y avait d'ailleurs un rendez-vous aujourd'hui avec le ministre Darmanin pour notamment un des sujets qui a été évoqué, c'est le sujet de la coordination avec la construction de la prison, la pige, etc. Mais également des projets plus lointains. Donc, par exemple, Jordan, tu pourras peut-être raconter à ceux que ça intéresse après autour du verre de l'amitié, mais on regarde les estimations de trafic de Villaroche année par année jusqu'en 2040. Bon, et après, ce sont des estimations, elles valent ce qu'elles valent, et on calcule les impacts cumulés en termes de trafic pour estimer quand on va devoir faire des aménagements sur l'arrivée, le départ des camions sur le site. Voilà, je pense que c'est important aussi de noter que parfois on a des retours contradictoires et c'est naturel, c'est un débat. Donc certains ont beaucoup mis en avant, y compris à l'écrit, l'importance de préserver le caractère villageois rural. Là où d'autres disaient qu'il faut favoriser le développement d'une grande quantité de logements et de services et de transports. Bon, sur la concertation elle-même... je ne vais pas vous dire ce que vous devez penser de la concertation, vous nous le direz vous-même.
Voilà. On va du coup repasser la parole à la salle pour...
Se poursuit. À la suite de ça, le porteur de projet va rédiger un rapport de décision qui indiquera les enseignements qu'il tire de la concertation et les suites qu'il donne au projet. Donc, vous voyez sur les temps, 23 novembre, donc, c'est la clôture de la concertation. 15 décembre, nous remettrons donc le bilan des garants. Et donc, le 15 février, il y aura donc la réponse du porteur de projet. Et ensuite, donc, si le projet se poursuit, comme je vous le disais dans les slides tout à fait au début, la concertation continue, puis l'enquête publique.
Merci. Je me tourne une nouvelle fois vers la salle pour... pour savoir aussi si, par rapport à ces éléments qui ont été présentés, les personnes présentes ont des suggestions à faire ou des attentes particulières sur la manière dont le dialogue ou l'information doit se poursuivre, selon eux, pour le projet, en sachant que, comme il vous a été rappelé, il y aura une enquête publique qui sera organisée au printemps prochain sur le projet. Mais voilà, est-ce que vous avez des attentes particulières sur la poursuite du dialogue et de l'information sur le projet? Si vous en avez, n'hésitez pas. C'est aussi l'occasion de l'exprimer et c'est un des points, un des objets aussi de cette concertation préalable. Bon, s'il n'y a pas d'attente particulière, je me tourne vers Thibaut Desfossés, peut-être pour un mot de synthèse provisoire, et non pas de clôture, mais de conclusion de la soirée, qui n'est pas la conclusion de notre concertation.
Oui, je pense que c'est important, vous l'avez dit, c'est la clôture de la concertation préalable. Il y a une possibilité de faire une concertation continue si le projet se poursuit. On nous a bien mis en garde sur le fait de ne pas prendre d'engagement ce soir parce qu'il faut attendre d'avoir les résultats du bilan des garants. Donc on va vous dire que si jamais le bilan des garants suggérait qu'une concertation continue était recommandable, nous en tout cas on souhaite poursuivre cette démarche parce qu'on a énormément appris dans le cadre des échanges qui ont eu lieu lors de ces 4-5 modalités et on souhaite que ça se poursuive. On a entendu des attentes qu'on comprend, des attentes de chiffres, des attentes de dates plus précises. J'invite par exemple ceux qui avaient des questions, monsieur Cardinal, c'est ça ? Notamment sur le sujet des transports, on a fait les études trafic.
C'est monsieur Mazarin, c'est pas monsieur Cardinal.
Ah !
Je sais.
Très très bien. Très
bon, bah c'est... bon bah c'est pas absurde.
Non. On va vous laisser poursuivre sur ce trait d'humour
volontaire. Il y a des attentes chiffrées. Il y a certains chiffres qu'on a et qu'il suffit de nous demander. Les analyses de trafic, elles ont été faites. On a eu l'occasion de les revoir la semaine dernière en préfecture. Il y a d'autres chiffres qu'on n'a pas, mais qu'on va avoir. Par exemple, les dernières modélisations de température de l'étude d'impact environnemental concernant le dernier déplacement de 2 mètres d'un bâtiment de la gauche vers la droite. Ça ne changera pas le fait qu'il n'y aura pas d'îlot de chaleur à Fouju, ni peut-être malheureusement de microclimat. Et enfin, il y a des chiffres qu'on n'a pas prévu de calculer, je ne sais pas, sur des sujets qui ont une importance pour vous. Par exemple, si vous me demandiez quel est le nombre d'arbres qu'on va planter, on sait en fait ça.
On le sait.
Ah oui, il y a des règles. Ah, voilà. Monsieur le maire veille, il y a des règles sur le nombre d'arbres dans le PLU. Bon, mon message, c'est s'il y a des éléments sur lesquels vous avez le sentiment de ne pas avoir suffisamment de faits, dites-le nous. Parfois, on ne pourra pas vous répondre tout de suite, mais on s'engagera à répondre du mieux qu'on peut dans des temps raisonnables. Merci à nouveau d'avoir participé. Et puis, on se...
Merci, voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, boisson, alcoolisée ou non, mais locale.
Pardon Jean-Baptiste, ça devait être le mot de la fin, mais je pense qu'on s'engage à répondre à vos questions, mais on s'engage surtout à s'engager. C'est ça qui est important, c'est le bilan de cette concertation. La date, c'est février.
Donc, le 15 février.
Voilà, le 15 février, et ça, c'est le...
Maximum.
Ah bon, bah, ça peut être plus tôt. On va travailler plus. Okay. Voilà, mais c'est à ce moment-là qu'on prend des engagements sur la façon dont on va sous-traiter, la part d'emploi dans les contrats, etc. Donc c'est aussi ce moment, le moment important, pas seulement les réponses aux questions dimanche soir. Voilà. Merci.
Merci à tous.